Aujourd'hui, nous allons parler du travail. Le travail. Le travail, c'est un sujet toujours un peu épineux. Et comme beaucoup de choses, en fait, on a parlé en étudiant la lettre aux Éphésiens, des relations dans le mariage, des relations entre parents et enfants. Aujourd'hui, on va parler des relations entre maître et esclave, ou pour contextualiser un peu, entre employeur et employé. Et ce qui me frappe toujours, c'est que on prie pour ce qu'on n'a pas. Et combien de personnes célibataires sont là à prier pour trouver l'époux ou l'épouse tant attendue. Et puis quelques temps après que ce mariage se passe, les mêmes personnes viennent voir le pasteur et parlent des problèmes. Comment c'est difficile. Et ils se plaignent de l'un, de l'autre. Heureusement, si on remet le Christ au centre, les problèmes disparaissent et le mariage continue. Mais la même chose pour les enfants. Des parents qui attendent, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Ah, si seulement on pouvait avoir un petit, ça serait le bonheur. Puis l'enfant arrive, et c'est l'enfer, entre guillemets. On ne peut plus dormir la nuit. Les enfants sont malades. On n'a plus le temps de rien faire. On ne peut plus voir ses amis. La maman passe son temps avec des petits qui n'ont pas grand-chose à lui apporter intellectuellement. Et de la même façon, on voit les nouveaux parents qui viennent parler au pasteur et disent « Qu'est-ce que c'est difficile ! » Oh là là ! Et puis la même chose pour le travail. On prie et on a prié souvent et longtemps, avec ardeur, pour que des gens trouvent enfin du travail. Puis le travail est trouvé, on dit alléluia, très rapidement, parce que le lendemain, oh là là, tu peux pas imaginer mon patron. Oh, puis les employés, je te dis pas ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a fait. Oh là là, j'en peux plus. Ah, si seulement je pouvais être missionnaire. Ah, là, ça serait travailler pour le Seigneur. Ah, ça serait le bonheur. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde affecté par le péché et toutes choses, on leur revers et c'est pas toujours facile. Ce qui est encourageant, en fait, c'est que la Bible a des enseignements à nous donner et je peux témoigner que si on applique ces enseignements, les choses vont beaucoup mieux. Et aujourd'hui, donc, on va lire ensemble Éphésiens, juste quelques versets. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va entamer les derniers versets de la lettre aux Éphésiens. Et en fait, on va pas étudier ces quelques versets en juste une fois ou deux. On va avoir plusieurs semaines où on va étudier le combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est aussi dans le mariage, avec les enfants, au travail. C'est dans notre vie de tous les jours, à tout moment. Il est essentiel qu'on comprenne cette dimension de notre vie, sinon on est le jouet des flots, des épreuves. Et on va étudier les armes du chrétien, comment avoir la victoire dans ce combat spirituel qui est une réalité essentielle à saisir. Donc là aussi, si vous avez des amis qui se débattent dans des problèmes, des amis qui ont des difficultés, ou même des chrétiens qui ne sont pas très au courant de ces faits, on va parler du diable. Le diable, sa meilleure stratégie, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Alors il utilise les images populaires, le survêtement rouge, les pieds fourchus, le trident, et bien sûr des personnes civilisées comme nous, on dit c'est bon, ce sont des superstitions, mais on va voir que c'est une réalité spirituelle essentielle à saisir et à bien comprendre. Lisons ensemble donc les versets 5 à 9 du chapitre 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Amen. Paul, l'auteur de cette lettre aux Éphésiens, nous a expliqué des principes doctrinaux, nous a expliqué, annoncé des vérités, et maintenant, il nous parle de les mettre en pratique. Et encore une fois, on a vu que pour le mariage, on peut écrire des tas d'ouvrages, il y a des tas de livres, toute une littérature dédiée au mariage, aux relations hommes et femmes. Et en fait, on a vu qu'en quelques versets, la Bible nous expliquait comment se comporter. Et je crois qu'on était d'accord, peut-être pas présenté les choses assez bien pour que vous soyez convaincus, c'est l'Esprit Saint qui doit vous convaincre, c'est pas moi, qu'en fait, en quelques versets, quelques principes, on pourrait régler beaucoup, beaucoup de problèmes. De la même façon, versets 5 à 9, si c'était mis en pratique, on n'aurait plus de grève. Vous imaginez ? Plus de disputes, plus de tribunal de prud'homme, plus de... Alors, encore une fois, ce sont des principes et on vit dans un monde qui est tombé dans le péché et ces choses ne sont pas mauvaises en soi et nous devons remercier le Seigneur d'avoir mis en place des institutions, le gouvernement et ses représentations syndicales, etc. Mais si nous vivions ces principes, si nous les mettions en pratique, beaucoup de ces choses n'auraient plus lieu d'être. Paul commence par s'adresser à ceux qui doivent se soumettre aux autres. Il a commencé à parler aux femmes avant de parler aux maris, à parler aux enfants avant de parler aux parents. Avant de parler aux patrons, aux employeurs, il parle aux employés, aux esclaves. Tout ça parce qu'il a préfacé dans ce chapitre d'Éphésiens le fait que nous devons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et que ça, on peut le faire lorsqu'on est continuellement en train d'être rempli par le Saint-Esprit. Il y a cette dimension spirituelle, et si elle est exclue, alors les relations dans tous les domaines ne peuvent pas être harmonieuses. Il va y avoir des divorces, il va y avoir des aigreurs, il va y avoir des disputes dans les familles, il va y avoir les disputes au travail. Ici, ces principes s'adressent bien sûr à des chrétiens, mais je crois que là aussi, notre travail, c'est un lieu de témoignage essentiel. Si vous n'êtes pas un espion secret, un chrétien secret au travail, et je vous encourage vivement à vous identifier comme chrétien. Pourquoi ? Parce que ça va vous protéger, les gens vont vous respecter, ils ne vont pas vous demander de faire des choses qu'ils savent ne pas être bonnes. Ils ont souvent plus de jugement que des chrétiens un peu égarés. Les gens du monde, des fois, savent exactement ce que les chrétiens devraient faire et ne pas faire. Eux, ils s'en sont pas concernés du tout, mais ils peuvent vous pointer du doigt lorsque vous faites mal. Et puis aussi, le fait que ça vous oblige à un certain comportement. Ça va être une protection pour pas aller vous saouler après le travail, parce que vous savez que les autres savent que vous êtes chrétien. Mais surtout, si vous vivez ces principes, les gens vont vous apprécier au travail. Peut-être pas initialement, mais vous allez avoir la possibilité d'un témoignage formidable, un témoignage en action, pas seulement en parole. Encore une fois, c'est facile de dire il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, de critiquer ce que font les autres, mais un témoignage positif, une activité menée selon Dieu, c'est une puissante lumière. JB me disait que pas plus tard que ce matin, il a dit à des collègues ou des jeunes qu'il allait à l'église, qu'il allait pas se coucher, il allait à l'église. Et ça, c'était quoi ? Tu vas à l'église, toi ? Et il me disait qu'en fait, il y a un jeune qui lui a dit : faudra que je vienne une fois avec toi. La puissance de votre témoignage, parce que vous allez dans des endroits où je ne vais pas, vous allez dans des endroits différents, vous touchez tous une sphère que personne ne touche. Peut-être d'autres chrétiens sont là aussi, tant mieux. Mais sachez que vous avez une possibilité d'annoncer la bonne nouvelle dans un milieu qui, sans vous, ne serait pas informé de l'amour de Christ. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Obéir, encore une fois, c'est le même mot qui était utilisé pour les enfants. Ça veut dire écouter en se mettant en position d'obéissance, de réponse. Se mettre sous quelqu'un et en l'écoutant pour le moindre détail. C'est presque anticiper les désirs de vos maîtres. Alors ces maîtres, ils sont selon la chair, ça veut dire que c'est dans le monde physique. Et ça, c'est aussi une invitation, à mon avis, à ne pas obéir à vos maîtres s'ils vous demandent de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si on vous demande de tricher au travail, si on vous demande d'arranger les comptes, vous devez refuser, sachant qu'il y a un risque. Il y a un risque de perdre votre travail, mais faites confiance au Seigneur. Paul s'adressait aux esclaves. Les serviteurs, en fait, c'était les esclaves, les doulos, et aux maîtres. Il y avait à peu près, certains parlent de 6 millions, d'autres de 60 millions, mais à peu près un tiers des travailleurs de l'époque étaient des esclaves. On a reproché souvent à Paul et à la Bible de ne pas avoir condamné l'esclavage ouvertement. Et ça, c'est intéressant, parce que ça pose le problème de l'action politique, de l'action sociale du chrétien. En fait, si Paul n'a pas condamné ouvertement, il y a d'autres passages qui montrent qu'il n'a pas encouragé, il a même dit « si vous pouvez vous libérer, c'est une bonne chose ». Mais, et je crois, c'est quelque chose à quoi je crois beaucoup, c'est qu'il y a, en tant que chrétien, nous devons être sur la place publique, nous devons faire connaître nos opinions, mais le changement ne va pas arriver par la politique. La société est transformée par un changement dans le cœur. Et pour moi, je préfère voir une société où les gens viennent au Seigneur un par un, qu'une société où on décrète, comme on l'a fait en Russie, que maintenant tous les gens vont vivre de telle ou telle façon, vont donner, vont pas avoir beaucoup d'argent, parce que ces choses qui sont imposées de l'extérieur ne vont pas durer. On peut forcer les gens à donner de l'argent, on peut forcer les gens à travailler jusqu'à 5 heures ou 17 heures jusqu'à la fin, mais si on impose la force, si on impose ces choses, l'homme est tel, l'homme est rebelle, qu'il va toujours trouver un moyen de contourner ces autres choses qui sont imposées de l'extérieur. Par contre, si vous transformez le cœur d'une personne et que cette personne en vient à appliquer ses principes et à travailler non plus pour avoir un salaire, mais à travailler pour le Seigneur, alors là, tout va changer. Obéissez à vos maîtres. Donc, à l'époque, les esclaves, il y avait toute une variété. Il y avait des esclaves qui étaient des esclaves, comme on l'imagine, où ils étaient vraiment comme du cheptel, comme du bétail. Il y avait même des écrivains latins qui ont parlé des esclaves. Il y avait dans l'agriculture, il y avait des outils animés, des outils inanimés et puis d'autres ressources. Et les outils inanimés, c'était les esclaves. Ils étaient placés au même titre qu'un âne ou que des outils, sauf que les outils ne pouvaient pas parler. C'est mieux, en fait, parce qu'ils embêtaient moins. Donc il y avait cet extrême où l'esclave était considéré comme un objet qui appartenait et sur lequel le maître avait toute puissance et toute liberté, tout ce qui lui passait par la tête pouvait être fait. Il avait le droit de vie et de mort sur ses esclaves. Et puis de l'autre côté, il y avait une autre catégorie d'esclaves qui étaient intégrés, qui s'occupaient des affaires, qui faisaient la gestion d'un domaine, des ressources d'un patron. Et ces esclaves aussi pouvaient souvent être très cultivés. Ils pouvaient, donc il y avait toute une variété d'esclaves. Mais peu importe qu'on soit un esclave considéré comme du bétail ou un esclave avec lequel le patron avait des relations intellectuelles et du respect, Paul nous dit, votre service doit être fait avec vivacité, avec réponse, avec crainte et tremblement. Alors l'idée c'est pas d'être paniqué, mais c'est d'être prêt à répondre en un instant. Et que ce soit fait dans la simplicité de votre corps, de votre cœur, pardon, sans orgueil, sans... Simplement, votre patron vous demande de faire quelque chose, vous le faites. Et bien sûr, la transposition moderne, ce sont les relations au travail entre employeur et employé. Et de la même façon, le Seigneur nous parle et nous dit, si vous êtes employé, il va parler aux employeurs après, faites ce qu'on vous demande avec vivacité et entrain. Verset 6, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Votre patron, ce n'est pas la personne qui vous donne le chèque à la fin du mois. Votre patron, c'est de façon ultime le Seigneur Jésus. Vous travaillez pour Dieu, vous travaillez pour le Christ. Et si vous avez cette perspective, alors encore une fois, tout va changer. Vous allez devancer, vous allez être plein d'initiative, toujours dans le respect de ce que vous demande votre patron. Et une chose très importante, vous n'allez pas travailler seulement lorsqu'ils sont là. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais nous avons tous connu dans nos occupations professionnelles, et avant d'être pasteur, qui est une occupation, j'ai travaillé longtemps dans l'informatique et j'ai fait, comme tous les étudiants, plein de petits jobs. Et même en tant que pasteur, j'ai pendant un certain temps travaillé. Je travaillais à l'auberge de jeunesse à Nice, à la réception. Et là aussi, j'essaye de mettre en pratique ces préceptes. Et on voit le résultat. On voit comment les patrons vous rappellent année après année en vous suppliant de venir travailler. Parce que si vous appliquez ces principes, vous allez devenir une bête rare. un élément recherché, un élément convoité. Trop de gens ne travaillent que quand le patron est là. Il y avait la blague qui disait « Si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, venez ici au travail, 5 minutes avant la fin de l'horaire normal. » Vous allez voir la résurrection des morts. Il y a des gens, quand ils sont au boulot, ils traînent. Et souvent, si vous êtes jeune, chrétien, vous arrivez plein de zèle avec ces principes en tête et vous allez vous faire reprendre par vos collègues. Je sais qu'à l'Ariane, c'était Laurence qui travaillait dans l'annexe de la mairie. J'espère qu'il n'y a pas d'autres employés de la mairie ici, tant pis. Honte à eux. Il lui demandait de ralentir la cadence. Hé, attends, tu as toute la journée, tu vas nous faire passer pour des feignants. Non, tu ne vas pas nous faire passer, tu vas nous révéler pour des feignants. Et je vous encourage vraiment à ne pas attendre que le patron soit là pour faire de votre mieux. Parce que votre patron, mon patron, il est là et il vous voit. À tout instant, à tout moment. Ne travaillez pas seulement sous leurs yeux pour plaire aux hommes. Ça, c'est un principe de la Bible. Cherchez à plaire à Dieu avant toute chose. Peut-être que vous allez déplaire aux hommes au départ. Peut-être que vos collègues vont trouver que vous travaillez trop, que vous les mettez en mauvaise lumière. Peu importe, cherchez à plaire à votre patron et vous allez voir que votre patron humain va apprécier votre travail. Et c'est vous qui allez avoir les promotions, c'est vous qui allez avoir les augmentations. Et franchement, ce serait tellement plus agréable si tout le monde y mettait du cœur à l'ouvrage. On a tous, encore une fois, on est dans un système, il y a des traditions, il y a tout un arrière-plan, il y a une politisation de la chose qui fait que bien souvent les gens ne travaillent pas comme ils le devraient. Ils ont le job et puis après ils cherchent à en faire le moins possible. Alors encore une fois, tout le monde n'est pas à mettre, je ne veux pas faire d'amalgame, mais tous nous avons été dans un bureau public où il faut demander pardon à la personne de l'interrompre avec sa collègue parce qu'elle parle de ce qu'elles vont faire le week-end suivant. Et ne soyons pas de ce genre. Faisons de notre mieux. Quand il y a si vous travaillez pour des clients, soyez empressés auprès de vos clients. Si vous travaillez dans un restaurant, soyez aimables, soyez empressés. Faites de votre mieux. Mettez-y un point d'honneur et mettez-y surtout une attitude. Parce que ce qui compte, c'est cette attitude de servir de bon gré comme si on servait le Seigneur, pas les hommes. Parce que, en fin de compte, verset 8, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et le Seigneur veut que nous travaillions de notre mieux. Et si vous l'avez déjà fait, le temps passe très lentement si vous regardez l'horloge. Vous allez passer... Et là, j'espère que je ne vais pas vous déprimer. À peu près un tiers de votre vie éveillée au travail. En France, avec la semaine des 35 heures, c'est un peu mieux que chez les autres. Mais si on prend, on va dire que la retraite dans quelques années, il faudra avoir fait 42 ans, vous aurez passé 69 000 heures au travail. 69 000 heures. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui viennent de commencer et qui ne peuvent pas supporter leur travail. Ça fait que Jean-Bernard, ça fait que quelques heures qu'il a commencé, le pauvre. 69 000 heures. Il y a d'autres pays où il n'y a pas les 35 heures, où la retraite, c'est pas 60, mais plutôt 65 ans, les États-Unis, par exemple, là-bas, c'est 98 000 heures. Après, on s'étonne pourquoi l'économie va mieux là-bas, mais ça, c'est un autre débat. Vous allez passer tout ce temps au travail. Est-ce que vous voulez que ce temps soit un temps satisfaisant? Un temps où vous vous épanouissez? Ou est-ce que vous voulez que ce soit un temps où vous regardiez 69 000 heures s'égrener sur l'horloge de la poste? Rien dit contre la poste, pardon. Est-ce que vous voulez que votre travail soit épanouissant? Est-ce que vous voulez mettre au service des autres les ressources en créativité, en persévérance, en ingéniosité, en discipline, en organisation, en qualité avec les autres, la gestion des ressources humaines? Est-ce que vous voulez mettre tout ça en pratique? Alors appliquez ces principes et cessez de vous plaindre. Remerciez le Seigneur de vous avoir accordé le travail où vous êtes en ce moment. Peut-être que ça fait des années que vous avez prié pour trouver le travail, et maintenant que vous avez ce travail, vous dites au Seigneur, ah non merci, si tu m'as donné. Alors, priez-le pour que les choses s'améliorent, priez-le pour qu'il vous donne la force, priez-le pour qu'il vous sorte de là si c'est vraiment l'enfer. Mais cessons de nous plaindre et de geindre comme la grande majorité de nos concitoyens et dans notre monde, c'est pas seulement en France hein, qu'on essaie toujours d'en faire le moins en se plaignant. La motivation. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et encore une fois, c'est les commandes du Seigneur ne sont pas là pour vous brimer ou pour vous rendre malheureux. Ce que le Seigneur nous demande de ne pas faire, ou ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de façon ultime, ça le glorifie, mais c'est surtout parce que ce qu'il glorifie nous fait du bien. Et c'est votre bonheur, c'est votre équilibre qui en dépend. Si vous pouvez voir le bon côté des choses dans votre travail, si vous pouvez prendre chaque jour comme un défi, même si c'est le travail le plus pénible qui puisse être, le moins intéressant, vous êtes peut-être, vous êtes à la caisse, vous pesez les pommes à Carrefour et vous collez l'étiquette. Ça ne doit pas être très, très passionnant au bout d'un moment. Mais en tant que chrétien, imaginez que chaque fois que quelqu'un vous tend un sac de légumes ou de fruits à peser, vous faites une courte prière au Seigneur en disant « Bénis cette personne, qu'elle puisse te rencontrer. » Alors je ne vous demande pas de faire l'évangéliste au travail et de ne pas travailler. Ça aussi, c'est un défaut de certains jeunes chrétiens pleins de zèle. Ils veulent servir le Seigneur, donc le travail demandé par le patron, on laisse tomber. Et puis alors, on donne les traités, on fait une étude biblique devant les pommes. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de voir la dimension spirituelle de votre travail, de remercier le Seigneur d'avoir de quoi vivre. Encore une fois, il suffit de tomber au chômage pour s'apercevoir de combien c'est précieux d'avoir un emploi, des revenus. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on doit rester toujours dans le même emploi en se contentant de se faire traiter comme un esclave, mais au départ, obéissez à vos patrons. Essayez de demander au Seigneur la force si c'est vraiment difficile. Et je suis sûr qu'il vous sortira des situations impossibles. Mais il ne nous tente pas au-delà de ce que nous pouvons endurer. Amen. Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Encore une fois, il a parlé aux employés qui doivent se soumettre. Maintenant, il parle aux maîtres qui doivent agir avec respect. Et les mêmes principes, c'est à mettre en pratique en retour. Cette soumission mutuelle dans la crainte de Christ, c'est un principe fantastique quand il est appliqué. Lorsque j'ai eu la joie de travailler pour un patron chrétien notamment, et c'était tellement riche, parce que lui voulait m'encourager, moi je voulais l'encourager, je travaillais dur, il me traitait très bien. Et l'atmosphère au travail s'en ressent pour tout le monde. Si c'est on rouspète, on critique, on médit, on calomnie dès que le patron a le dos tourné, on sait qu'on va le faire pas seulement pour le patron, mais pour les autres employés, pour les collègues, et l'ambiance va être délétère, complètement pourrie. On va se lever le lundi matin, « Oh, c'est pas possible, il faut que j'aille au boulot. » Alors que si, encore une fois, votre tâche, c'est de vous soumettre, d'obéir, en travaillant comme si vous travailliez pour le Seigneur. En priant pour vos maîtres, en priant pour les clients, en priant pour l'entreprise, le maître, lui, doit s'abstenir de menaces. Là aussi, c'est pas pour embêter le maître. C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs motivations dans notre monde avec les humains. Il y a la motivation par la peur. À l'époque, certains esclaves étaient vraiment manipulés, dirigés par les menaces et par les coups de fouet, par les privations, par des mauvaises actions physiques contre eux. Et en général, si c'est la base de la motivation, elle ne tient pas le choc. Il faut toujours être avec votre employé. Ou alors il faut mettre une caméra pour les surveiller. Et là encore une fois, si on vous oblige à faire quelque chose, vous allez essayer de faire le minimum possible. Par contre, si on utilise l'autre motivation, la motivation de l'amour, du respect, de la reconnaissance, alors vous allez vouloir faire davantage. Vous n'allez pas vous en tenir au strict minimum, au strict nécessaire. Parmi nous, il y a sans doute des personnes qui sont en position de responsabilité. Même moi, en tant que pasteur, je pensais que ces choses s'appliquaient au domaine du travail, et puis le Seigneur m'a dit, mais non, c'est toi avec Noah, c'est toi avec Jenny, avec Kate, qui sont là pour travailler et avec tout le monde en fait. Est-ce que je menace ou est-ce que j'utilise la motivation de l'amour? Est-ce que je remercie lorsqu'un service est bien fait ou est-ce que je suis à dire ah ça n'a pas été fait et ça c'est un et je m'en excuse encore auprès d'eux, je le confesse, j'ai tendance à être perfectionniste et avoir ce qui n'a pas été fait plutôt qu'avoir tout ce qui a pu être fait. Et vous le savez, je le sais, ça peut être tellement décourageant. Lorsqu'on s'est donné du mal, je sais que Noah et Victor ont fait le ménage, merci, cette semaine. Et j'ai pu remercier Victor, j'ai pas encore remercié Noah. J'imagine que si je dis « Ah tiens, là, vous n'avez pas nettoyé dans le coin », ils vont dire « Bon, ben, la prochaine fois, tu le feras toi-même ». C'est naturel. On aime bien que nos efforts soient remarqués, si possible récompensés. Alors, ça peut être financièrement au travail, ça peut être par un compliment, ça peut être pour un mot d'encouragement. Mais c'est essentiel. Et si vous avez, c'est vrai que ces mêmes principes sont valables, la soumission, le respect, dans le mariage, dans la famille, entre parents et enfants, au travail, avec vos collègues. Pourquoi est-ce qu'il faut s'abstenir de menaces? D'abord parce que si on utilise la motivation de l'amour, on va avoir un bien meilleur rendement, pour être brutalement. économique, mais surtout parce que nous avons des comptes à rendre devant notre employeur ultime, devant Dieu. Et devant Dieu, il n'y a pas de considération de personne, c'est-à-dire il n'y a pas de favoritisme. Ici, vous avez l'impression que on vous reconnaît pas parce que vous êtes en bas de l'échelle. Vous venez de commencer comme magasinier dans une entreprise. Quand c'est le patron qui arrive, les autres employés lui disent bonjour ou essayent de travailler davantage. Vous, quand vous arrivez, on se moque de vous ou on ne paye pas attention. Ça, c'est vrai ici-bas, mais devant Dieu, il n'y a pas de patron ou d'employé. Nous sommes tous égaux au pied de la croix. Vous vous souvenez de ce passage fameux, Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Le christianisme abolit les différences de l'intérieur. Il n'y a plus de... Encore une fois, c'est en changeant les personnes une à une qu'on va changer la société en profondeur. Bien sûr, on peut faire des réformes politiques, on peut imposer des choses, on peut mettre des lois contre les abus, contre les enfants qui sont employés comme des esclaves, etc. Mais un vrai changement va apparaître si vous venez à Christ et que vous vivez selon ses principes. C'est le même patron, que ce soit les directeurs, les chefs d'entreprise, les PDG, les chefs de grands groupes, ou le plus humble des employés qui vient de commencer son travail pour une petite entreprise ou même pour des particuliers. On sait qu'en fait, l'esclavage a été aboli. Et ce sont des chrétiens qui ont mené ce combat. Parce qu'en fait, toute la Bible, tout l'enseignement de la Bible est contre le non-respect de l'autre, l'exploitation de l'autre. Mais à l'époque, un autre argument qu'on utilise, c'est que c'était tellement impliqué dans le système économique et social que d'avoir condamné ouvertement l'esclavagisme et de l'avoir interdit pour les chrétiens, ça aurait posé la religion chrétienne en religion subversive. En fait, je crois que la vraie raison, c'est ce que je disais, c'est que ce qui compte, c'est le changement dans votre cœur par rapport à cette partie tellement importante de votre vie, le travail. Le travail est souvent perçu comme une punition. Si on revient à la Genèse, tournons-nous au début de la Bible. Avant la chute, avant le péché originel, avant cet épisode historique où l'homme et la femme ont pensé qu'en désobéissant à Dieu, ils allaient trouver le bonheur, c'est pas un conte ou une légende ou une histoire de raconter le début de l'évolution. C'est un événement historique. Et c'est comme ça que le péché est entré dans la race humaine. Mais avant que le serpent, le diable, ne tente Ève et Adam, Dieu avait donné du travail à l'homme. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail, c'est ce qui vous permet de vous épanouir, d'utiliser les dons que Dieu vous a créés, votre créativité, votre imagination, votre endurance, vos qualités d'ordre, encore une fois, de gestion des autres. Toutes ces choses-là, ce sont des dons que Dieu vous a donnés et vous allez éprouver un plaisir immense à les mettre en valeur. Alors c'est vrai que le travail en lui-même est une bonne chose, Ne croyez pas que vous allez vous ennuyer au paradis. On a cette fausse image de jouer de la harpe assis sur le coin de nuage avec une robe blanche, une harpe d'or. Et on se dit en soi-même, je veux faire confiance à Dieu, ça sera bien, mais si c'est ça, je préfère aller au boulot tous les lundis matin. En fait, Dieu va nous donner des responsabilités, nous allons gérer des choses dans la vie éternelle. Ça serait toute une étude, mais ne croyez pas que le travail soit une mauvaise chose. Le travail, c'est Dieu travaille, Dieu a travaillé, il s'est arrêté le septième jour pour son repos, nous en avons parlé dans la lettre aux Hébreux. Le travail est devenu pénible, le travail est devenu une chose difficile après la chute. Vous vous souvenez, il a dit à la femme, d'abord il s'adressait au diable. Dieu a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre, c'est verset 14 du chapitre 3. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Ça, c'est l'annonce de l'évangile. C'est Jésus-Christ qui était le fils, le descendant de la femme. Jésus était parfaitement Dieu, il était parfaitement homme. Il est descendant d'Ève. Il a écrasé le talon la tête du serpent qui avait mordu Christ au talon en le faisant aller à la croix, mais Jésus a gagné la victoire à la croix et Satan a perdu, même si aujourd'hui il essaye de nous faire croire qu'il est encore en position de puissance, c'est faux. Dieu a dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ça serait l'objet de toute une étude, ce chapitre. Et surtout, mon propos, c'était verset 17. Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais le travail, lorsque nous serons dans la gloire, le travail sera quelque chose qui ne sera pas pénible, on ne transpirera pas, je pense. Le soleil, ce sera la présence de Christ, la présence de Dieu, qui illuminera le monde d'alors. Tout ça pour dire que le travail, c'est ne pensez pas que ce soit encore une plaie pour l'homme. Combien de gens souhaitent pouvoir un jour gagner le gros lot. Et sans exception, les rapports, les reportages qui expliquent l'histoire de ces gens qui ont d'un seul coup gagner des millions d'euros, on pensait que le bonheur était arrivé, leur vie a complètement capoté. Parce que d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Il y a les soucis d'argent. Cette somme-là, si on la met pas, si on l'investit pas bien, donc on va chercher des conseillers, mais à qui se fier? Et puis, les gens arrêtent de travailler. Ils font des dépenses en dépit du bon sens, si tant est qu'il y ait une façon de dépenser avec du bon sens des millions d'euros. Le mieux, c'est sans doute de les donner pour l'œuvre de Dieu à différentes missions ou des travaux, ou en garder un peu pour vous, peut-être garantir vos vieux jours. Mais quel est le problème de ces gens? C'est qu'ils n'ont plus la discipline du travail. Ils n'ont plus la joie de se coucher à la fin de la journée en étant fatigués parce qu'ils ont accompli quelque chose de bon, quelque chose d'utile à la société, quelque chose qui les a enrichis, qui leur a donné la joie de surmonter un problème. Encore une fois, on se moque un peu de la mentalité anglo-saxonne, de l'éthique anglo-saxonne pour le travail. C'est George Sand qui disait « Le travail acharné n'est que le refuge des gens qui n'ont rien d'autre à faire. » Alors ça, c'est un peu extrême. D'un autre côté, c'est vrai que pour certains, le travail, c'est... Dieu ne vous demande pas que votre travail soit toute votre vie, parce qu'arrive la retraite et on voit des personnes qui ne savent pas comment occuper leur temps, parce qu'ils n'ont jamais pensé aux autres, ils n'ont jamais pensé à s'investir dans d'autres causes. Mais encore une fois, une autre façon de voir la chose, et ça c'est la sagesse de Confucius qui parlait, qui disait « Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce système? Alors c'est pas évident. Des fois ça demande du courage peut-être de quitter un travail où on a la sécurité financière pour faire un travail où on pense. Je sais que parmi nous, il y en a qui ont eu, j'en ai connu, qui voulaient partir aider dans des orphelinats, dans des choses, mais on se dit oui, mais... Si c'est ça à quoi le Seigneur vous appelle, vous allez être heureux même. Si financièrement, on va penser que vous êtes cinglé, vous n'allez pas garantir vos vieux jours. Mais si vous faites un travail qui vous plaît, qui vous enrichit, et c'est la volonté de Dieu pour votre vie, vous n'allez plus avoir à travailler un seul jour de votre vie. Alors, encore une fois, je sais qu'il faut assurer. On a des enfants à nourrir, on a des traites à payer, on doit se loger, se vêtir, se chauffer. Encore ici, dans le sud, c'est moins cher en chauffage. Et il y a des moments où on doit se contenter d'un travail qui n'est peut-être pas notre travail idéal. Mais si vous changez votre attitude... Vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie en vous disant « Oh, j'en ai marre, le turbin, le boulot, mon job. » C'est l'activité que le Seigneur vous confie en ce moment. Et je crois que certains d'entre nous, peut-être, ont le privilège d'avoir vraiment une occupation. Pour moi, ce que je fais, ce n'est pas du travail. Vous me direz, bien sûr, tu travailles qu'une heure et demie le dimanche matin. Mais si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous n'allez plus avoir le sentiment de... Vous n'allez plus regarder l'horloge pendant les 70 000 heures qui vous restent à travailler. Amen.